perché dans la canopée, l'aigle mangeur de singes, un peu trop conscient de sa rareté, snob le reste de la forêt. Les longues plumes du sommet de son crâne, rabattues en arrière, symbole maniéré de son aristocratie, établissent une séparation nette et racée entre lui et le singe qu'il guette. Puis il descend, discrètement, agrippé aux branches de l'arbre, vers sa proie, sur laquelle il s'abat finalement, toute serre dehors et en avant, se servant enfin de ses ailes pour amortir puis inverser sa chute prédatrice. Il attrape le macaque crabier et regagne son point d'observation dans les hauteurs de la dense forêt. L'aigle tue le singe de son puissant bec crochu, ne dépeignant que partiellement sa coiffe dans l'action. Les membres du macaque crabier pendent de chaque côté de la branche, marquant ainsi encore plus la différence entre l'aigle et le singe. L'un vivant et l'autre mort. L'aigle tuant le singe, l'aigle mangeant le singe, l'aigle pouvant continuer à vivre en mangeant le singe. L'aigle mangeur de singe pouvant continuer à être appelé l'aigle mangeur de singe puisqu'il continue à manger des singes. L'aigle mangeur de singes, qui pourtant se fait de plus en plus rare, qui est en train de disparaître, même s'il peut continuer à vivre en continuant à manger du singe. Un jour, lui aussi va mourir, et un jour, il n'y aura plus d'aigle mangeur de singes pour succéder aux aigles mangeurs de singes. L'aigle mangeur de singes est un des derniers représentants de son espèce, et il en est conscient. Et il en est fier, au perché, dans la canopée, fier d'être un vestige de la noblesse, et en même temps un peu désolé, puisque les singes le redoutent de moins en moins, au fur et à mesure que les aigles mangeurs de singes sont moins nombreux, et que donc leurs attaques se font moins nombreuses. D'ailleurs, l'aigle mangeur de singes se doit de ne pas faire trop d'attaques rapprochées, pour que les singes oublient sa présence entre chaque attaque. Que la méfiance des singes diminue, puis disparaisse quasiment, voire totalement. Alors l'aigle peut à nouveau descendre lentement vers le groupe de singes, discrètement, pour, quand il est assez près, finalement s'abattre et sceller le destin d'un autre de ces singes, ou d'un autre de ces petits animaux, c'est-à-dire plus petit que lui, qui peuple également son territoire, dont il est encore, même si c'est de plus en plus une illusion conventionnelle, le maître. Et ce n'est pas le tarsier qui s'opposera à cet état de fait, malgré ses immenses yeux marrons écarquillés, semblant figé dans la surprise, tout comme il est agrippé aux branches, de ses mains aux longs doigts, aux extrémités, munis de disques. Petit singe aux poils gris et aux grandes oreilles, pouvant faire presque un tour entier avec sa tête. Il sait que l'aigle mangeur de singes existe encore, et il sait que lui est un singe, aussi particulier soit-il. Alors il surveille dans tous les sens, et s'assure de tous ses sens que l'aigle mangeur de singes n'est pas dans les parages, tout en profitant pour chercher lui aussi de la nourriture, insectes, lézards, serpents, oiseaux, ou encore renards volants, chauves-souris également en voie de disparition. Mais le tarsier s'en fout, il la bouffe, avant de retrouver son sourire calme et trompeur. Car ce sourire n'est que la position naturelle des muscles, des contours de sa bouche au repos. Sourire incontrôlé, si souvent interprété de travers par les autres animaux, qui y voient là une bonne humeur naturelle ou un cynisme moqueur. Rien de tout ça. Les pensées et la véritable nature du tarsier échappent même au tarsier, qui vient encore de faire un tour complet de sa tête et fixe d'un coup, yeux dans les yeux, le python réticulé, qui ne peut s'empêcher de dérouler la savante et régulière mosaïque de son corps devant ce spectateur aux yeux si grands, prouvant ainsi que c'est parfois dans les marécages et les mangroves que l'on trouve les plus belles œuvres d'art, ainsi que les plus grands serpents du monde. Et c'est moins la capture du tarsier qu'il souhaite que la démonstration de sa beauté, de sa grandeur et de sa puissance, réclamant ainsi silencieusement que lui soit enfin attribué le statut de maître du territoire, anticipant la disparition de l'aigle mangeur de singes, espérant même précipiter la disparition de la réputation de cet aigle. Car le python sait que pour que quelque chose disparaisse totalement, il faut aussi qu'en disparaisse l'image et le souvenir. La réputation et même l'idée. Le python réticulé déroule donc la mosaïque incrustée de toutes ses écailles sur son corps. Seulement, s'il peut grimper sur les branches des arbres, il ne peut voler comme l'aigle mangeur de singes, ni même comme ces vulgaires pigeons verts et bleus. Condamné à ramper avec sa vanité, le python réticulé n'a pas compris, comme le crocodile marin, qu'il vaut mieux rester discret. Surtout si on est gros et qu'on n'a pas d'ailes pour voler. Bien caché au fond des eaux du mangrove, le crocodile marin, laissant dépasser ses yeux, immobile, se laisse dériver comme un tronc d'arbre.